Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Ferrand, docteur en sciences politiques et spécialiste d'un sujet auquel il a consacré sa thèse, qui est l'espace public. Alors je rappelle brièvement, pour situer son intervention dans le cadre général de ce cycle, donc nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle les difficultés des apprentissages des élèves dont nous avions essayé de faire la clinique était donc le produit d'une représentation fausse, au sens de réductrice et unilatérale de l'apprentissage, d'une doxa, dont a parlé Dominique Ottavi, donc d'un ensemble flou d'idées qui a pour lui la force de l'évidence, mais qui nous rend aveugles à des dimensions essentielles de ce que c'est qu'apprendre, mais aussi de ce qu'il s'agit d'apprendre. Pour le résumer brièvement, nous sommes aveugles au fait que le monde des significations dans lequel nous vivons se présente aux nouveaux venus, certes comme un ensemble dans lequel ils sont d'emblée pris, mais aussi dont ils ne se sentent pas partie prenante, précisément parce qu'ils ne peuvent en saisir la cohérence en tant qu'ensemble. Et que donc ces nouveaux venus doivent en ce sens aussi entrer dans cet ensemble qui se présente à eux comme antérieur, hermétique. Ils doivent donc y être initiés. Nous avons une véritable difficulté aujourd'hui à nous représenter cet ensemble dont nous faisons partie et considérons spontanément dans ce monde qu'il n'y a que des individus. Nous allons voir avec Olivier Ferrand l'une des modalités de ce qui nous permet de nous représenter cet ensemble, l'espace public de la connaissance, et quelles sont les implications de sa crise actuelle. Voilà, je lui cède immédiatement la parole.
Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement Jean-Marie Lacrosse, Martin de Kayser et toute l'équipe du CEPEC pour cette nouvelle invitation à venir m'exprimer devant vous. Je vous en suis, à vrai dire, d'autant plus reconnaissant que cette possibilité d'évoquer en public des sujets qui me tiennent à cœur est devenue pour moi une chose rare, une sorte de privilège même, depuis que les circonstances de la vie m'ont éloigné du monde des amphithéâtres et de la recherche. J'exerce en effet aujourd'hui la profession de consultant dans un cabinet de conseil en stratégie et en organisation, le même cabinet d'ailleurs que celui où travaille Hervé Juvin, que vous avez eu l'occasion d'accueillir ici même il n'y a pas très longtemps, je crois. Le sujet que je suis venu évoquer avec vous a pour point de départ une sollicitation de Pierre Nora. Le 10 novembre 2009, très précisément, j'ai reçu de celui-ci une lettre me proposant d'écrire un article dans un ouvrage collectif intitulé « De quoi l'avenir intellectuel sera-t-il fait ?» Voilà, il s'agit de ce livre-là. Ouvrage qui devait s'inscrire dans le prolongement d'une enquête menée en 1980 auprès d'une génération de trentenaires d'alors, trentenaires que la postérité a pour ainsi dire consacré, puisque parmi les auteurs de l'époque figurent des auteurs qui vous sont familiers, de Gilles Lipovetsky à Philippe Reynaud, en passant par Pierre Rosanvallon ou Emmanuel Todd. Et je dois dire que ma première tentation a d'abord été de décliner cette proposition qui m'était faite, d'abord parce que je me sentais éloigné, très éloigné même de la vie universitaire que j'ai quittée, et ensuite parce que je disposais à vrai dire d'assez peu de temps pour écrire cet article, puisque le délai qui m'était imparti était de 2 mois. Ce qui m'a fait finalement changer d'avis, c'est le souvenir de ce que j'avais appris à l'époque où je faisais ma thèse en lisant les grandes revues de la période que j'étudiais à cette époque, à savoir les grandes revues de la Troisième République. Je songe notamment à la Revue Bleue, à la Revue des Deux Mondes, qui existe toujours d'ailleurs, ou encore à la Revue de Paris. Et bien dans ces articles, on pouvait lire des contributions qui jetaient un puissant éclairage sur l'époque, et non seulement d'ailleurs à travers ce que leurs auteurs en saisissaient, mais aussi à travers ce qu'ils laissaient dans l'ombre. Et donc, c'est en fonction de ce souvenir que mon projet a rapidement pris forme, écrire non pas tant pour mes contemporains que pour nos successeurs, laisser autrement dit aux historiens des temps à venir un regard sur la vie intellectuelle des années 2000, aussi imparfait, aussi partial soit-il. L'enjeu, donc, pour moi, c'était de contribuer à une compréhension à venir de notre présent. Alors, ce parti pris présentait l'avantage non négligeable de légitimer mes impressions, ma perception des choses, ma subjectivité. Qu'importe finalement que mes impressions soient fondées ou non, l'essentiel résidait dans le fait que la structure actuelle de la vie intellectuelle les rendait possibles et permettait à un observateur comme moi de les formuler. À charge, autrement dit, pour les lecteurs des temps futurs et à vous-même de démêler dans ce que je perçois aujourd'hui le vrai du faux. Si je devais résumer d'un mot mon sentiment immédiat, ma perception spontanée des choses, je dirais que quelque chose dans le monde du savoir a mal tourné. Et que ce quelque chose a à voir avec notre génération sans pour autant s'y réduire. Marcel Gauchet a pu parler à propos de la génération de mai 68 de génération, je cite, dominante politiquement et dominée intellectuellement. Au moins cette génération aura-t-elle eu le mérite d'écrire nombre de livres intéressants, voire quelques ouvrages de tout premier plan. Le désenchantement du monde en fait assurément partie. Notre génération lèguera-t-elle à ses successeurs un héritage aussi substantiel? En a-t-elle simplement le désir ou les capacités? Rien n'est moins sûr. Y a-t-il au sein des jeunes générations actuelles des auteurs dont l'œuvre sera comparable à celle des penseurs que, pour ma part, j'ai admirés et au contact desquels se sont déroulées mes années d'apprentissage? Je songe aux œuvres de Claude Lefort, de Cornelius Castoriadis, de François Furet. Alors j'entends d'ici l'objection qu'on ne manquera pas de m'adresser. Sans doute est-il trop tôt pour être aussi catégorique. Peut-être mon pessimisme me masque-t-il l'incroyable richesse et la prodigieuse diversité des travaux des jeunes générations. Peut-être même suis-je aveuglé par mon ressentiment ou par mon éloignement de la vie intellectuelle. Cette objection, me semble-t-il, ne résiste pas à l'examen. Comme le soulignent fort justement Marcel Gauchet et Pierre Nora dans la préface de cet ouvrage, en 1980, une relève générationnelle était clairement identifiable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les jeunes actuels, pour commencer, ne s'inscrivent plus dans des générations. Mais au-delà de ce phénomène de dégénération, si vous me permettez l'expression, le phénomène marquant, c'est celui de la perte d'aura de la vie intellectuelle. Sa position de surplomb par rapport à l'existence humaine, son éminence, sa dignité, se sont évanouis, ou en tout cas, sont en train de disparaître sous nos yeux. Il en résulte, de mon point de vue, un appauvrissement, une désubstantialisation de la vie de l'esprit, dont je perçois les signes dans la production universitaire de la discipline à laquelle j'ai été rattaché, la science politique. À l'époque où je rédigeais ma thèse, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire la première moitié des années 2000, eh bien, l'immense majorité des travaux m'apparaissaient, pour être totalement franc, inintéressants, répétitifs et dénués de hauteur de vue. L'objet d'étude n'était en général qu'un prétexte à la mise en œuvre d'un arsenal méthodologique sophistiqué. C'était tout particulièrement le cas dans un sous-ensemble de la science politique, celui des politiques publiques. À l'Institut d'études politiques de Grenoble, où j'ai été attaché d'enseignement et de recherche, je voyais passer très régulièrement, toutes les semaines même, des résumés de thèses en vue de soutenance. Je lisais l'ensemble de ces documents qui résumaient les travaux des auteurs, des jeunes auteurs, et ce qui me frappait, c'était le caractère moutonnier et interchangeable des analyses. Au fond, on pouvait changer les titres, et bien les conclusions demeuraient. Et l'issue des politiques publiques, puisqu'il y avait beaucoup de travaux dans ce domaine, l'issue des politiques publiques dépendait à chaque fois des rapports de force entre acteurs. Comme quoi, quand la lutte des classes cesse d'être un paradigme tenable pour expliquer les phénomènes sociaux, eh bien les disciples, orphelins du grand récit, se rabattent aussitôt sur une version « light » adaptée au simple d'esprit. Pour le dire d'une manière peut-être plus nette, il m'apparaissait alors que la production du savoir s'était disjointe de tout horizon de connaissance. De plus en plus de travaux, de moins en moins de compréhension du réel. De sorte que l'entrée dans la société du savoir s'opérait sous le signe d'une extinction des Lumières. La lecture de l'ouvrage publié en 2008 par Lindsay Waters, directeur des presses de Harvard, est venue apporter à mes intuitions une éclatante confirmation. Dans l'ouvrage qu'il a alors publié, « L'éclipse du savoir », eh bien, Lindsay Waters dresse un tableau assez sombre, assez inquiétant, de la production intellectuelle de notre époque. Eh bien, c'est ce déroutant paradoxe qu'il s'agit d'élucider. Pourquoi, dans la société dite de la connaissance, le savoir perd-il son aura ? Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a mal tourné dans le monde de l'esprit ? Il serait assurément réducteur de tout mettre sur le dos des nouvelles générations. J'ai eu rapidement l'intuition que quelque chose de plus vaste et de plus profond était en jeu, une transformation d'ensemble de notre rapport au savoir, une mutation irrésistible de la signification qu'il revêt à nos yeux. En d'autres termes, ma conviction est que le savoir ne disparaît pas, mais qu'il se recompose, qu'il se métamorphose, qu'il entre, si l'on veut, dans une nouvelle phase de son histoire. Avant de s'en réjouir ou de le déplorer, c'est ce changement d'assise qu'il convient d'analyser, car c'est à partir de lui que l'on peut comprendre ce sentiment éprouvé par un certain nombre d'entre nous qu'un ressort dans la vie intellectuelle s'est cassé. Il m'a semblé que dans cette quête d'intelligibilité, eh bien, le concept d'espace public pouvait nous être de quelque secours. Dans ma thèse, soutenue en 2004, j'avais eu l'occasion de montrer que l'espace public, loin de l'univocité qu'on lui prêtait, était en réalité pluriel. Cette découverte, je l'avais faite presque par hasard en étudiant les modalités de réglementation de l'expression publique sous la Troisième République en France. Une analyse un peu fine des textes juridiques de l'époque m'avait permis de découvrir qu'à côté du régime libéral dont bénéficiait la presse, notamment depuis la fameuse loi du 29 juillet 1881, eh bien, d'autres formes d'expression publique, le théâtre, le music-hall, le café-concert et plus tard le cinéma, faisaient l'objet d'une surveillance tatillonne de la part des pouvoirs publics. D'un côté, la possibilité de tout écrire, avec pour seule limite un contrôle a posteriori exercé par les tribunaux, en cas d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de diffamation. De l'autre, un contrôle a priori, agissant pour ainsi dire comme un filtre, avant que les œuvres ne soient offertes au public. Et bien de ce qu'il existait deux types de réglementation de l'espace public, j'en ai tiré la conclusion qu'il y avait deux espaces publics. Un espace public politique, qui est celui que tout le monde a à l'esprit en général lorsque l'on convoque cette notion. Espace public politique qui se conçoit comme une instance de médiation entre la société civile et l'État. Et puis, à côté de cet espace public politique, un espace public du divertissement sur lequel j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer ici. Eh bien, je crois qu'il est temps d'enrichir ou d'élargir cette typologie en faisant apparaître un troisième espace public, l'espace public de la connaissance. Quelle est la spécificité de cette sphère? Alors, en première approximation, on pourrait dire qu'elle constitue une instance de diffusion, une instance de discussion, une instance de validation de la production intellectuelle. La raison d'être de cette sphère est à rechercher du côté de l'essence même de la modernité. Pour nous autres modernes, la vérité ne vaut que si elle est en droit, valable pour tous. Ce qui implique le devoir pour chacun de se soumettre à l'épreuve de la critique et du jugement d'autrui. Je dirais donc que le savoir, chez les modernes, revêt nécessairement une dimension publique. Cet espace public de la connaissance se laisse décrire comme un édifice composé de trois étages. Le premier étage a vocation à héberger les contributions considérées comme scientifiques, c'est-à-dire qui poursuivent l'objectif d'un élargissement du savoir. De fait, comme l'écrit Max Weber, le travail scientifique est solidaire d'un progrès. Il ne se confond ni avec la vulgarisation, ni avec la répétition de ce que d'autres ont pu dire. Dans le champ disciplinaire dont il relève, le chercheur doit tâcher d'ajouter sa pierre à l'édifice déjà existant. Il doit tendre vers une forme d'originalité, que ce soit pour explorer un nouveau champ ou pour renouveler le regard porté sur un sujet. Le deuxième étage, la présentation que je donne est volontairement schématique, le deuxième étage héberge l'ensemble des productions intellectuelles qui ne satisfont pas à ce premier critère, soit parce qu'elles visent à diffuser des connaissances qui ont déjà été produites, il s'agit d'un travail de vulgarisation, soit parce qu'à l'inverse, elles sont la manifestation de la subjectivité de leur auteur. Et on parlera alors d'essai pour distinguer ces travaux de travaux scientifiques à proprement parler. Tandis que le premier étage est essentiellement fréquenté par la communauté des pairs, le deuxième étage, en revanche, est davantage ouvert au grand public. Il existe enfin un troisième étage qui accueille l'ensemble des recensions, l'ensemble des travaux critiques dont les productions du premier étage font l'objet. Les revues en forment la charpente, lieu de discussion, lieu de débat, lieu de critique des œuvres. Celle-ci vise à permettre au lecteur de s'orienter dans la profusion des œuvres publiées. Et ici, on peut introduire une distinction entre les revues spécialisées, propres à chaque discipline, et les revues généralistes, qui tâchent justement de jeter un pont entre la production savante, quelle qu'en soit la discipline, et le grand public. Au final, si l'on peut distinguer trois espaces publics et non un seul, Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il existe trois possibilités offertes à l'individu qui souhaite se représenter la société dont il est membre. La première passe par la connaissance de l'action publique, c'est le rôle de l'espace public politique. La deuxième manière de se représenter la société dont nous sommes membres, eh bien, elle passe par la mise en scène de ce qu'on pourrait appeler, j'utilise un terme hegélien, son esprit objectif, c'est-à-dire ses mœurs, ses valeurs, ses idéaux, ses principes. C'est là la vocation de l'espace public du divertissement. Et la troisième manière, enfin, de se rapporter à la société dont on est membre, passe par la connaissance de ses lois, de son fonctionnement. C'est là la finalité de l'espace public de la connaissance. On peut donc tenter de décrire l'espace public comme une instance du savoir de soi du social, une instance de la représentation de la société. C'est grâce à cette sphère, en effet, que la collectivité se réfléchit, se pense elle-même, à la fois dans ce qu'elle veut, politique, dans ce qu'elle valorise, divertissement, et dans ce qu'elle est, connaissance. Tel que je viens de le définir, cet espace public de la connaissance possède une efficacité symbolique. J'emprunte le terme à Claude Lévi-Strauss. Par efficacité symbolique, il faut entendre une capacité à créer du lien sur la base d'une série de divisions ou de déliaisons initiales. La singularité de l'espace public de la connaissance, c'est de créer une communauté, c'est d'engendrer du lien. Communauté qui réunit des auteurs et cette entité abstraite, insaisissable, que l'on appelle un public. Comment cette communauté sont-ils engendrés ? Eh bien, ils sont engendrés au travers de deux processus, au travers d'une double médiation que je vais à présent tâcher de détailler. À un premier niveau, ce qui crée du lien, c'est l'existence d'une médiation visible entre la production des œuvres et la réception par le public. À un second niveau, ce qui crée du lien, c'est l'existence d'une médiation invisible, cette fois-ci, entre un auteur singulier et la communauté de ceux auxquels il s'adresse. Au niveau le plus visible, tout d'abord, l'espace public de la connaissance accomplit un travail de médiation entre la production intellectuelle d'une époque et sa réception par le public. Ce travail de médiation se décompose en trois étapes principales qui forment une véritable chaîne. L'édition en est le premier maillon. L'édition joue un rôle médiateur à travers le travail de sélection des œuvres qu'elle effectue. Tout n'est pas rendu public. Il y a des manuscrits qui sont rejetés. Ces manuscrits bruts envoyés par les auteurs sont ensuite retravaillés. Ils sont mis en forme. L'éditeur, bien souvent, propose un titre. Il propose un découpage en chapitres, en paragraphes. Il propose parfois une réécriture d'ensemble. Bref, il y a tout un travail consistant à mettre en forme le manuscrit initial et, qui plus est, à l'inscrire dans une collection. Les ouvrages que nous achetons font partie de collections. Et ces collections visent, eh bien, à procéder à des rapprochements thématique. Donc on ne tombe pas par hasard sur un ouvrage, en général. Le deuxième maillon de ce travail de médiation se situe au niveau de la diffusion des œuvres. C'est là le travail principal des libraires. Là aussi, quand vous rentrez dans une librairie, eh bien, observation banale, les ouvrages sont rangés. Ils sont rangés d'une manière parfois éminemment discutable, mais en tout cas, il y a une conception qui a présidé au regroupement des ouvrages, soit dans la catégorie des ouvrages de philosophie, ou d'anthropologie, ou d'histoire, ou que sais-je encore. Donc là aussi, il y a bien un travail de médiation entre la production intellectuelle et les lecteurs que nous sommes. Le troisième maillon de cette chaîne de la médiation se situe au niveau de l'activité critique, telle qu'elle s'opère au travers des revues, au travers des comptes rendus d'articles. L'activité critique, c'est quoi ? Nous avons perdu, je crois, le sens de cette activité. L'activité critique, aujourd'hui, consiste à dire c'est bien ou c'est mal, c'est intéressant ou c'est nul. En réalité, pardon ? Voilà, coup de cœur. En réalité, la vocation originelle de la critique, c'est de situer un écrit singulier dans un ensemble plus vaste. Le vrai travail de la critique, c'est d'opérer des rapprochements entre tel ouvrage singulier et d'autres auteurs avec lesquels il dialogue, soit officiellement, soit souterrainement. C'est encore de resituer cet ouvrage dans quelque chose qui le précède, des courants, des disciplines. Comment est-ce que tel livre apporte une contribution décisive ou pas à la connaissance de tel sujet ? Est-ce qu'il renouvelle véritablement notre regard ? Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à d'autres travaux portant sur la même matière ? Voilà la finalité véritable de la critique. Et là encore, s'opère un travail de médiation entre l'auteur et le lecteur. Édition, diffusion, critique, telles sont finalement les trois opérations à travers lesquelles se joue un travail de mise en forme, un travail de mise en scène de la production intellectuelle. Et ce travail est d'autant plus précieux que celle-ci se présente sous le signe d'une prodigieuse diversité qui confine au chaos. Diversité des disciplines et des sous-disciplines, multiplicité des sujets, hétérogénéité des approches, diversité des méthodes. L'espace public, à travers la mise en forme qu'il opère, réfracte ainsi les grandes tendances de la recherche. Il réfléchit les débats, les confrontations et les désaccords qui caractérisent la vie des idées. Et ce faisant, il aide le lecteur à s'orienter, à se repérer dans la vie intellectuelle et ainsi à progresser dans sa propre démarche. Édition, diffusion, critique, trois opérations qui, en raison des liens qu'elles contribuent à tisser entre les auteurs et leurs lecteurs, peuvent bien être qualifiées de symboliques. Mais cette médiation entre la production et la réception des œuvres ne se manifeste pas simplement au présent. Elle est aussi tournée vers le passé. Et l'espace public de la connaissance peut d'une certaine manière être considéré comme un lieu de mémoire, dans la mesure où il permet la conservation et partant la transmission du savoir dans le temps. Les travaux qu'il accueille en son sein ont en effet vocation à transcender le cours de l'existence humaine. Et les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires, chacun à leur manière, chacun dans des registres qui leur sont propres, contribue à faire vivre et à représenter cette histoire du savoir. Voilà pour la médiation visible que j'ai évoquée. À côté de cette médiation visible, il existe un deuxième type de médiation, invisible, celle-là, car purement interne à la pensée elle-même. C'est une médiation que je qualifierais de subjective, dans la mesure où elle se déploie du dedans même du processus d'élaboration des connaissances. La publication, c'est du moins ce que l'on a tendance, ce qu'on tend souvent à penser, est perçue comme un acte second dans l'élaboration des connaissances. La plupart des gens pensent spontanément que la publication, c'est ce qui vient après, une fois que vous avez achevé votre travail, qu'il s'agisse d'un article ou d'un ouvrage. Je soutiens au contraire que c'est très exactement l'inverse. La plupart des auteurs écrivent en vue d'être publiés. Toute pensée n'est pas simplement pensée de quelque chose, c'est une pensée en vue d'un public. Et cet horizon de publicité conditionne très profondément l'activité du sujet pensant. Lorsque je cherche à m'adresser à un public, eh bien, pour commencer, je suis bien obligé de me faire comprendre. Et se faire comprendre suppose d'être capable de se mettre à la place des autres. Penser en se mettant à la place de tout autre, de manière à trouver en soi des arguments valables pour tous. L'espace public de la connaissance est en ce sens, pour reprendre une formule kantienne, le berceau d'une pensée élargie. Sitôt que j'écris, je suis incité à convoquer en pensée une communauté invisible de lecteurs. Je suis appelé à nouer un dialogue imaginaire avec d'hypothétiques contradicteurs. Et vous voyez qu'à travers ce processus-là, s'établit, là encore, une nouvelle fois, sur un autre mode, une médiation entre l'auteur et tous ceux auxquels il s'adresse. Il y a du lien dans l'activité pensante. L'activité pensante est même, peut même se définir, ça n'épuise pas sa définition, mais comme la création d'un lien. Au final, à travers la représentation des différents savoirs, l'espace public de la connaissance donne vie à une communauté, à une collectivité composée des auteurs présents, passés et de leurs lecteurs. Et cette collectivité, loin d'abolir la subjectivité, lui fournit tout au contraire les conditions à partir desquelles elle peut se déployer. C'est un point qui me paraît tout à fait essentiel. Le savoir individuel ne se nourrit pas que de lui-même. Le savoir individuel ne libère toutes ses potentialités. Il ne parvient à son plus haut degré d'expression qu'à compter du moment où il s'arrime, où il s'ajointe à un au-delà de lui-même. Pour le dire de manière peut-être plus synthétique, le savoir individuel ne prospère qu'à la condition de s'adosser au savoir hérité, au savoir collectif en train de s'élaborer et qu'à la condition, enfin, de dialoguer avec une communauté de lecteurs invisibles. Telle est la triple altérité avec laquelle nous sommes aux prises sitôt que nous aspirons à rendre publiques nos pensées. Ces articulations dans le champ du savoir, cette liaison entre des auteurs et des lecteurs, eh bien, l'espace public ne les engendre pas par lui-même. Il ne les crée nullement à partir de rien. J'ai défini l'espace public de la connaissance comme une instance de représentation du savoir. Eh bien, il faut se demander qu'est-ce qui rend possible cette représentation ? Qu'est-ce qui fait que le savoir s'offre comme objet représentable ? Eh bien, ce qui fait que le savoir s'offre comme objet représentable, c'est qu'il possède en lui-même des articulations. Et pour essayer de clarifier ce point, je crois qu'il est temps d'introduire une distinction entre le savoir et les savoirs. Travail de définition complexe, ardu, auquel je n'ai pas la prétention de m'attaquer de manière frontale. Je voudrais simplement poser quelques distinctions destinées à clarifier les choses, quitte à proposer une vision extrêmement schématique. Le savoir, pour tenter d'en donner une définition, se laisse appréhender très simplement comme la connaissance que l'humanité a d'elle-même. Cela implique deux choses à mes yeux. D'une part, le savoir n'est pas figé, il est évolutif. Il ne cesse de se redéfinir, de s'enrichir au fil du temps, au gré des apports, des différentes contributions individuelles. En second lieu, à l'image de l'humanité elle-même, le savoir n'est pas univoque, il ne se décline qu'au pluriel. C'est par d'innombrables voies, en effet, que l'humanité accède à la connaissance d'elle-même, et cette connaissance n'est jamais définitive. Elle ne parvient jamais à un stade ultime qui viendrait clore l'histoire du savoir. Il n'y a pas, autrement dit, de savoir absolu. Même si de bons esprits ont nourri cette espérance. Je propose par conséquent de définir le savoir comme une œuvre collective, abstraite et impersonnelle. Collective en ceci qu'elle enveloppe la multitude des travaux publiés sans se réduire à aucun d'entre eux. Abstraite car elle échappe à toute formalisation, à toute saisie d'ensemble, étant plus et autre chose que la somme des travaux individuels. Pour dire plus trivialement, nul n'a jamais vu le savoir. En troisième lieu, le savoir est une œuvre intemporelle, car à la manière des États, il ne meurt jamais, accueillant en son sein, sans interruption, sans discontinuer, le renouvellement des connaissances. Le savoir envisagé sous cet angle est ce qui transcende les savoirs tels qu'ils se concrétisent dans des œuvres matérielles, dans des livres ou dans des articles. On pressent à travers cette définition que le couple qu'il forme que le savoir forme avec les savoirs fait système. Et je crois qu'il y a là un point tout à fait décisif. Je dirais les choses de la manière suivante. Le savoir nourrit les savoirs à travers l'héritage intellectuel qu'il leur lègue, en même temps que les savoirs cherchent à enrichir le savoir à travers un point d'entrée qui leur est singulier. Dans des registres distincts, avec des instruments différents, des méthodes différentes, tous les travaux visent poursuivre la même finalité, l'accroissement des connaissances. Pour résumer les choses d'une formule, eh bien on pourrait dire que le savoir est simultanément la matrice et l'horizon des différents savoirs. Leur matrice, en ce sens qu'il délimite ce que Marcel Gauchet appelle un domaine du pensable, c'est-à-dire un ensemble à la fois indéterminé et contraignant qui, au gré de l'accumulation des connaissances, renouvelle sans cesse la vision de l'homme et de la société à partir de laquelle s'élaborent les différents savoirs. Peut-être pour donner une illustration très concrète, à partir du moment où, dans le domaine du savoir, vous avez une découverte comme celle de l'inconscient, domaine de la psychanalyse, eh bien, il est difficile pour tous les autres savoirs, pour toutes les autres disciplines, d'y rester insensible. On pourrait donner des tas d'autres exemples. Il y a, je dirais, des travaux qui ont des répercussions sur l'ensemble des autres travaux, du fait des acquis, du fait des bouleversements qu'ils opèrent. Pour donner encore un autre exemple, vous ne pouvez plus penser les choses en physique à partir du moment où vous avez eu une théorie comme la théorie d'Einstein. Vous pouvez choisir de revenir en arrière si vous le souhaitez, mais vous serez obligé de justifier, de vous positionner par rapport à cette théorie. Mais le savoir n'est pas simplement la matrice des savoirs, il définit également leur horizon, ou pour utiliser une nouvelle fois une formule kantienne, une idée régulatrice pour chacun d'entre eux. Une idée régulatrice, entendre par là l'idée d'un tout de la connaissance dans lequel chaque contribution individuelle est appelée à s'inscrire et qu'elle s'efforce d'enrichir. En définissant les choses de cette manière, eh bien, on se rend compte que les savoirs, parce qu'ils ont pour point de mire le savoir tel que je viens de le définir, eh bien, se retrouvent dans une situation d'interaction les uns par rapport aux autres. Parce que chaque travail singulier vise à apporter sa pierre à l'édifice de la connaissance humaine, à partir du domaine qui lui est propre, eh bien, ils se retrouvent, chacun, tous se retrouvent sous le regard les uns des autres. L'articulation entre le savoir et les savoirs place chaque savoir en relation avec les autres, de manière horizontale, si vous voulez. Et cette situation, qui me semble être une donnée structurelle, est de nature à engendrer une quête de complémentarité, ou à l'inverse, à aiguiser une rivalité entre eux. Ainsi envisagé, le savoir est l'opérateur symbolique des savoirs. J'entends par là la source invisible qui les relie les uns aux autres, par-delà leurs domaines respectifs, tout en les reliant entre eux dans le temps. cette efficacité symbolique du savoir par rapport au savoir, au pluriel, se duplique à son tour à l'intérieur des différents savoirs institués. Chaque discipline exerce en effet la même fonction matricielle et régulatrice à l'égard des travaux qui s'en revendiquent. Quand je suis historien, eh bien, à travers l'étude de tel objet singulier, je cherche, au-delà des découvertes particulières auxquelles je peux parvenir, je cherche à enrichir ma propre discipline. Il y a donc tout un système invisible de liens qui innerve le savoir. C'est ici que l'espace public de la connaissance trouve sa véritable raison d'être. La vocation de l'espace public de la connaissance, c'est de représenter ce système invisible de liens qui innerve le savoir. J'avais déclaré au préalable que l'espace public de la connaissance pouvait être caractérisé comme un opérateur symbolique à travers les liens qu'il noue entre les auteurs et leur public. Eh bien, ces médiations symboliques entre les auteurs et leur public sont conditionnées souterrainement par les médiations symboliques qui se déploient du dedans du savoir lui-même. L'espace public de la connaissance, autrement dit, est un système symbolique second. C'est une instance de mise en scène et de mise en sens du système des savoirs, grâce à laquelle prend corps une communauté composée des auteurs et de leur public. J'ai jusqu'à présent tenté de définir les choses, j'ai tenté de mettre au jour la structure des savoirs, le fait qu'ils se tiennent dans un rapport d'interaction les uns avec les autres. Une fois ce travail effectué, il reste à préciser que les choses ne sont pas immuables. Ce système des savoirs change dans le temps. Il se transforme, il se métamorphose. Et de ce point de vue-là, la généalogie, cette transformation du système des savoirs produit par là même une transformation de l'espace public de la connaissance. L'espace public de la connaissance change parce que le système des savoirs évolue dans le temps. Et la généalogie de cette sphère reste tout entière à écrire, très au-delà de ce que nous a proposé Michel Foucault dans l'archéologie du savoir. Alors, je ne vais pas ici entrer dans l'histoire de cette sphère, je voudrais simplement focaliser mon regard sur la période la plus récente, sur les 30 dernières années. Le phénomène décisif qui s'est produit dans l'espace public de la connaissance se résume en un seul mot, le mot de fragmentation, ou si l'on préfère, le mot d'atomisation. L'espace public de la connaissance, tel qu'il s'offre aujourd'hui sous nos yeux, laisse apparaître quatre fractures. Fracture, en premier lieu, entre les artisans du savoir. Fracture, ensuite, entre les connaissances issues des différents domaines. Fracture, en troisième lieu, entre la production savante et le grand public. Fracture, enfin, entre le savoir et la société. Je vais essayer de revenir sur chacune d'entre elles. En premier lieu, et c'est une transformation que tout le monde a aujourd'hui le loisir d'observer, le savoir ne constitue plus un trait d'union entre ceux qui le produisent. Il n'y a plus pour commencer, de génération intellectuelle. C'est un point que j'ai sommairement abordé dans mon introduction. Il n'y a plus de génération intellectuelle, car tout ce qui pouvait unir, tout ce qui pouvait fédérer les jeunes gens faisant leurs premiers pas dans le monde de la recherche, a disparu. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'humanité, ces humanités qui donnaient à chacun un bagage culturel commun, et, aurais-je tendance à ajouter, il n'y a plus de maître. Très significativement, la notion de maître à penser a progressivement disparu de notre paysage. Les jeunes chercheurs de notre époque creusent désormais leur sillon, chacun de leur côté, sans avoir nécessairement le sentiment d'arpenter une maison commune. On peut, de ce point de vue, établir une comparaison entre les deux échantillons de trentenaires qui sont réunis dans cet étage, dans cette contribution, pardon. Il y a une différence frappante qui saute immédiatement aux yeux. C'est que les trentenaires des années 1980 ont, pour parler le langage de notre époque, un socle culturel commun. Ils ont à peu près tous lu les mêmes auteurs, les maîtres allemands principalement, Marx, Nietzsche, Heidegger et Kant, Freud également. Par ailleurs, ils constituent une génération au sens fort du terme, la dernière génération sans doute, j'entends par génération une cohorte d'âge unie par une conscience de soi qui en l'occurrence s'est forgée au contact des événements de mai 68. Eh bien, le contraste avec la génération 2010 est tout à fait spectaculaire. Nous n'avons aucun lien entre nous, ni auteur, ni maître. Pour nous, la production intellectuelle a changé de signification. Elle ne consiste plus à s'inscrire dans un monde commun, mais, pour reprendre une expression nietzschéenne, à façonner d'innombrables petits mondes propres. Nous sommes, pour ainsi dire, des particules élémentaires. Et le point ressort très nettement de la lecture des travaux. Les trentenaires écrivent chacun sur un domaine qui leur tient à cœur, un domaine de prédilection. On voit beaucoup moins nettement que pour la génération précédente, une tentative, un effort pour se situer dans un paysage intellectuel, pour se rattacher à des courants, pour rejeter des traditions. Quand on lit les auteurs de la génération 1980, il y a un point qui frappe tout de suite, c'est la volonté de remettre en cause le marxisme. Pas simplement, mais en tout cas, le marxisme qui jette ses derniers feux, sert pour ainsi dire de repoussoir à cette génération-là. C'est très clair par exemple dans la contribution de Gilles Lipovetsky, de Luc Ferry et de bien d'autres, hein, et de Philippe Reynaud. Donc on perçoit bien chez les auteurs de cette époque une esquisse d'ébauche de nouveaux paradigmes intellectuels, et notamment l'ébauche d'un paradigme plus individualiste à travers l'analyse de la société d'un côté, mais aussi d'un point de vue plus méthodologique, à travers la réhabilitation du point de vue de l'acteur, cet acteur qui avait été disqualifié par les théories structuralistes. De ce que le savoir ne forme plus un trait d'union entre ses artisans, on peut également en voir le signe dans le fait que les universitaires s'intéressent de moins en moins à leurs travaux respectifs. C'est quelque chose qui m'avait très vivement frappé à l'époque où j'enseignais à l'Institut d'études politiques de Grenoble. tout se passe d'une certaine manière, comme si l'écriture d'un livre ou d'un article était une chose qui n'engageait que soi, un mode d'expression privé, en quelque sorte. Alors, bien sûr, il y a des tas d'exceptions à cette règle, mais vous observerez que lorsque les universitaires prennent le temps de lire des travaux d'autres universitaires, des universitaires qui n'appartiennent pas à leur discipline, eh bien, en revanche, ils se permettent rarement de les critiquer, du moins de les critiquer publiquement, dans des revues ou dans des livres. Chacun vit d'une certaine manière sous l'empire d'un droit à la différence qui le dispense de manifester ses désaccords à l'égard de travaux étrangers à sa spécialité, comme si les uns et les autres avaient cessé d'habiter une maison commune. C'est ainsi que les fruits de l'activité intellectuelle coexistent de nos jours de la manière la plus pacifique et la plus apaisée qui soit. Le sentiment dominant est celui de l'égale dignité de tous les travaux. Dans l'espace public, la tolérance et le pluralisme règnent sans partage. Naturellement, il en va tout différemment dans les couloirs des universités, où l'on ne se prive pas de dire tout haut ce que l'on pense de la production de ses collègues. Mais cela reste publiquement indicible. Ainsi, il y a de moins en moins de débats, de moins en moins de controverses. Pour l'anecdote, je m'attendais à ce que cet article que j'ai publié fasse l'effet d'un coup de pistolet dans une salle de concert. J'espérais provoquer, j'espérais susciter des réactions, voire une contre-offensive musclée. Eh bien, il n'en a rien été. Mon article a été accueilli dans une splendide indifférence et il vous revient le mérite d'avoir rompu cette indifférence en souhaitant engager le débat avec moi. J'en suis tout à fait ravi et je vous en remercie une nouvelle fois. Deuxième trait marquant de notre époque, l'hyperspécialisation qui caractérise aujourd'hui le monde de la recherche et qui se traduit par une rupture des liens entre les connaissances des différents domaines, mais plus encore entre les connaissances qui s'inscrivent à l'intérieur d'un même domaine. Le savoir éclate. En sociologie, par exemple, un auteur avait relevé l'existence d'une cinquantaine de spécialités. Il y a une sociologie de la famille, il y a une sociologie politique, il y a une sociologie de la communication. Je ne vais pas toutes les passer en revue parce que ce serait vraiment beaucoup trop ennuyeux. Mais bref, les auteurs qui s'inscrivent dans ces sous-courants de la sociologie prennent de moins en moins la peine de dialoguer avec les autres. Ce qui, au final, dessine un paysage intellectuel plus éclaté, plus atomisé que jamais. Produit par des spécialistes et destiné à d'autres spécialistes, les innombrables travaux publiés chaque année n'ont de consistance que particulière. Ne subsiste plus, pour tout horizon commun, que la stérile injonction à la pluridisciplinarité. Effectivement, une fois qu'on a supprimé les liens qui reliaient les différents travaux, il ne reste plus qu'à chercher à les agréger ou à les juxtaposer. En général, les travaux qui s'avancent sous le signe de la pluridisciplinarité ne se signalent pas par la fermeté de leur pensée. Étrange spectacle, par conséquent, que celui que nous dévoile l'effacement du savoir. Jamais humanité n'aura produit une telle montagne de livres, d'articles, mais jamais les connaissances n'auront semblé aussi éclatées, dispersées, morcelées. Comme si les différents domaines de la vie humaine et sociale ne communiquaient plus entre eux. Et ce morcellement, cette atomisation de la vie intellectuelle, se traduit très directement à sa traduction immédiate au niveau matériel. Le signe le plus évident en est la destitution du livre par l'article. Le livre aujourd'hui, dans le monde de la recherche, est de plus en plus disqualifié. Si vous voulez accéder à un poste de chercheur, à un poste d'enseignant, eh bien c'est des articles qu'il vous faut, des tonnes d'articles. Tout ceci étant mesuré par le fameux coefficient H, c'est-à-dire celui coefficient H qui mesure votre impact bibliométrique, c'est-à-dire l'impact de vos travaux sur les autres auteurs. Impact, le mot mérite qu'on s'y arrête, pas l'influence intellectuelle, simplement le fait que vous êtes cité. Conséquence logique, eh bien, les mandarins dans nos universités aujourd'hui demandent à leurs disciples, lorsqu'ils écrivent des articles, soit de mettre leur nom sur l'article, enfin, ça fait un article de plus, soit de citer leurs propres travaux pour améliorer le coefficient H. La situation frise le ridicule. C'est l'article donc qui fait autorité, et on voit bien la différence entre un livre et un article. Un livre brasse large. Un livre cherche à resituer l'objet qu'il étudie dans un ensemble plus vaste. Il essaye de l'inscrire dans un paysage intellectuel. L'article, par la force des choses, étant plus bref, va droit au but. Critique pas la forme article en tant que telle, elle a d'incomparables avantages. Le problème surgit à partir du moment où l'article devient une fin en soi. Et tout ceci, naturellement, ne fait que renforcer le cloisonnement disciplinaire. D'autant que l'article tend lui-même à s'émanciper d'une forme qu'il hébergeait jusqu'à présent, la forme revue. On lisait avant des articles dans des revues. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la plupart des articles, c'est une tendance de plus en plus lourde, sont mis en ligne directement sur des sites spécialisés auxquels on accède via un moteur de recherche. Vous voyez immédiatement les conséquences de ce phénomène. Avant, quand vous vouliez consulter un article, vous achetiez une revue ou vous feuilletiez une revue dans une bibliothèque. Et cela vous obligeait à minima à feuilleter le sommaire, à voir qu'il y avait autour de l'article qui vous intéressait en particulier d'autres articles réunis dans un thème, dans un ensemble plus large, et que ce thème coexistait avec d'autres thèmes. Eh bien, à partir du moment où vous accédez aux articles à travers un moteur de recherche, vous perdez cette dimension d'inscription collective. Alors, on me dira, tout ceci engendre une formidable démocratisation de l'accès au savoir. Mais il n'est pas certain que cette démocratisation de l'accès au savoir soit synonyme de démocratisation du savoir lui-même. Comment ne pas remarquer ainsi que les travaux entretiennent de moins en moins de liens avec le grand public. En témoigne la baisse continue des tirages dans le monde de l'édition. C'est un phénomène qui s'observe dans tous les pays, à ma connaissance. L'augmentation constante des titres édités est allée de pair avec la diminution régulière des tirages. Mais le plus inquiétant du point de vue de l'avenir intellectuel est sans doute la perte d'intérêt de la jeunesse pour les œuvres de l'esprit. De ce point de vue, la massification de l'accès à l'enseignement supérieur, en gros, entre 1960 et 2000, la population étudiante a été multipliée dans notre pays par 5 ou 6, eh bien cette massification ne s'est pas traduite, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, par un surcroît d'intérêt pour le monde de l'esprit. Les statistiques de lecture des étudiants sont, de ce point de vue, apocalyptiques. De plus en plus d'étudiants, de moins en moins d'ouvrages lus. La jeunesse, dans le monde du savoir, est aujourd'hui en état de minorité, au sens très précis que Kant donne à ce terme dans « Qu'est-ce que les Lumières ?». Alors, il y a des raisons évidemment qui expliquent ce phénomène, cette coupure entre le savoir et le public cultivé, notamment la structuration interne des travaux de notre époque. Travaux de notre époque qui, de plus en plus, déploient des arsenaux méthodologiques tout à fait époustouflants pour analyser leur objet. À tel point que les grands penseurs du passé font figure d'ancêtres préhistoriques. La multiplication des notes de bas de page, la multiplication des références purement méthodologiques, eh bien, naturellement, tout ceci crée un hiatus entre les spécialistes d'un sujet et les lecteurs ordinaires. Et cette scientifisation croissante, hein, scientifisation avec des guillemets, répond à un enjeu tout à fait fondamental pour les auteurs d'aujourd'hui, se prémunir du jugement d'autrui. Tout se passe comme si les universitaires de notre époque n'écrivaient qu'avec l'ardent désir de n'être point lus. Il y a une sorte de principe de précaution qui s'est imposé dans la vie universitaire de notre époque et qui rend les travaux totalement ésotériques. Au-delà de cette coupure entre le monde de la recherche et le public cultivé, eh bien, il s'est opéré une coupure entre le monde de la recherche et la société en général. Société dont il ne parvient plus à comprendre la marche ni à éclairer les ressorts. Alors, le temps m'est beaucoup trop compté pour que je me livre un passage en revue des différentes disciplines, mais je voudrais prendre le problème pour illustrer ce divorce entre la société et le savoir. Je voudrais prendre le problème de l'autre côté, du côté des pouvoirs publics. Le phénomène marquant des 20 ou 30 dernières années, c'est l'éloignement de plus en plus grand des dirigeants politiques à l'égard du monde de la connaissance. Et je voudrais vous en donner une illustration sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard en lisant la presse il y a la semaine dernière. Elle concerne un islamologue très réputé qui s'appelle Olivier Roy, un des meilleurs spécialistes que nous avons en France du monde arabe, qui avait rédigé, il y a 6 ans, une note pour le compte du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Le titre de sa note, la démocratisation du Moyen-Orient est incontournable malgré la montée des islamistes. Dans un entretien accordé à un journal peu de temps après les bouleversements que nous connaissons, Olivier Roy confiait ceci, je cite, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage, de Mitterrand à Sarkozy, quand un dossier est géré par la présidence, tout le monde s'aligne sur le pouvoir en place. Le président pense qu'il sait parce qu'il a dîné avec le roi du Maroc, vu un copain qui connaît Kadhafi parler à la femme d'un ministre. Il est persuadé qu'il sait ce que disent les chercheurs, dit Olivier Roy, il s'en fout. Je crois que ce témoignage est tout à fait révélateur d'un état d'esprit assez répandu. Et j'observe simplement qu'en France, en dépit de la multiplication des officines censées éclairer les pouvoirs publics, je cite le Conseil d'analyse stratégique, le Conseil d'analyse de la société, le Conseil d'analyse économique, and so on, eh bien, j'observe qu'en dépit de la multiplication de ces officines, l'action publique a bel et bien tourné le dos à tout effort de compréhension du réel. Et c'est un aspect de la crise politique que nous vivons. Résumons-nous. Des travaux soustraits à la critique des pairs, ignorés du public cultivé, et ne parvenant plus à relier les connaissances de leur domaine ni à s'ajointer à un savoir plus général. Voilà le tableau de notre époque. Alors, sans doute pourra-t-on nuancer, affiner ou même contester tel ou tel de ces points. Il m'a semblé qu'il fallait peut-être grossir le trait pour rendre le phénomène plus visible. Mais on ne pourra nier que tous ces phénomènes que je mentionne participent d'une même lame de fond. Ce qui caractérise tous les faits que j'ai évoqués, eh bien, c'est à chaque fois un phénomène de dissociation, de dislocation, de séparation des acteurs que l'espace public de la connaissance avait durablement permis de fédérer. La galaxie de liens dont il formait le cœur s'est irrésistiblement dissoute, découvrant un paysage atomisé. La société du savoir, ou quand le savoir, précisément, cesse de faire société. Détrôné de son piédestal, privé de son prestige et de son autorité d'antan, celui-ci ne désigne plus qu'un secteur parmi d'autres de la vie sociale, au même titre que le sport, la politique ou l'économie. Et c'est au sein de cet environnement inédit, environnement éminemment confus, morcelé, que se déroule maintenant depuis une vingtaine ou une trentaine d'années les années d'apprentissage des futurs chercheurs. Question, comment leur production intellectuelle ne s'en trouverait-elle pas affectée dans son exercice comme dans sa signification ? Et je voudrais essayer d'en donner quelques illustrations. Premier point qui me semble important, l'évanouissement du public de l'horizon du chercheur. Ou, si vous préférez, le fait que l'on n'écrit plus désormais que pour quelques spécialistes, les quelques spécialistes qui, dans le monde, même plus dans votre pays, les mêmes spécialistes qui partagent la même discipline que vous et avec lesquels vous vous retrouvez périodiquement à l'occasion de colloques. Eh bien, je soutiens que le fait d'écrire pour quelques spécialistes et non plus pour un public invisible porte un coup fatal à l'exercice intellectuel. Comme je l'ai indiqué, écrire pour quelques-uns, ce n'est pas la même chose qu'écrire pour tous. Sitôt que le public s'éloigne de votre horizon, eh bien, s'efface en même temps cette communauté imaginaire, cette communauté virtuelle de lecteurs qui vous pousse à vous transcender, qui vous pousse à étayer la moindre de vos assertions, qui vous pousse à la rendre lisible, compréhensible, déchiffrable. L'extinction de ce débat intérieur que l'on peut nouer avec soi-même parce que l'on écrit en vue de toucher un public, eh bien, l'extinction de ce débat intérieur est le plus grand péril que l'on puisse imaginer pour la pensée qui se trouve condamnée à tourner stérilement autour d'elle-même. C'est la cause principale du nombrilisme intellectuel ou de l'autisme intellectuel que l'on observe aujourd'hui. Deuxième point important, la fragmentation de l'espace public se traduit par le règne de l'entre-soi et de la promiscuité. Elle favorise l'émergence de chapelles, de baronnies qui instillent dans les esprits le pur respect des conventions. La vie intellectuelle, pour un jeune chercheur, se trouve aujourd'hui placée sous le signe de la dépendance, et cette dépendance confine à l'aliénation, pour reprendre aujourd'hui un terme qui a disparu de notre lexique. De fait, la restriction de votre auditoire aux seuls spécialistes de votre discipline vous place inévitablement sous la tutelle de ces derniers, puisque c'est d'eux précisément que vous attendez une reconnaissance et, plus décisivement, un travail. Pense-t-on sérieusement que cette dépendance à l'égard de lecteurs que l'on connaît et qui vont être les personnes qui vont décider de votre carrière universitaire vous pousse à l'innovation ? Croit-on qu'elle incite à se livrer à une critique sans concession de leur thèse ? Un nouvel impératif catégorique a ainsi vu le jour. À l'impératif, à l'exigence de penser par soi-même, a succédé l'exigence de penser comme les autres. Et cette école du conformisme recrute de nombreux adeptes, dédommagés de leur servitude par l'octroi de postes universitaires. De ce point de vue-là, la vie universitaire, en tout cas en France, regorge d'anecdotes absolument affligeantes. Mais ce n'est pas le mérite, ce n'est pas le talent intellectuel qui sont déterminants, in fine, pour faire carrière dans le monde de l'université ou dans le monde de la recherche. L'allégeance intellectuelle croît ainsi à mesure que l'espace public se privatise et ce tout petit monde, vous vous en doutez, ne sied pas à de très grandes pensées. Troisième point important, l'éclatement de l'espace public de la connaissance provoque, me semble-t-il, une désorientation de la pensée. Un espace public fragmenté est un espace public qui cesse de fournir des repères aux nouveaux chercheurs pour initier leur propre démarche intellectuelle. Discipline, sous-discipline, secteur, domaine, sujet, tout figure sur le même plan, tout semble équivalent. Dès lors, comment distinguer l'essentiel de l'accessoire ? C'est, je crois, ce qui permet de comprendre la tentation très forte chez de nombreux jeunes de se rabattre sur un micro-sujet soigneusement découpé. Alors, on m'objectera sans doute qu'il n'a jamais été simple de s'orienter dans le monde de la pensée. Et c'est vrai. Mais cette capacité à s'orienter devient d'autant plus délicate, d'autant plus difficile, lorsqu'il n'y a plus de paysage intellectuel proposant une vue d'ensemble des œuvres de l'esprit. De surcroît, plus l'espace public s'atomise, plus le choix d'un thème de recherche paraît arbitraire. Tout ce à quoi vous vous intéressez, à titre individuel, semble pouvoir être élevé à la dignité d'un sujet d'investigation. Il s'ensuit que ce n'est plus le désir d'élargir le savoir qui vous oriente dans telle ou telle direction, mais bien plutôt votre intérêt personnel. Et de cela, on pourrait donner d'innombrables illustrations. J'ai failli un instant venir avec le recueil des thèses soutenues en sciences politiques ou en sociologie l'année dernière. La seule lecture des titres donne une bonne indication pour comprendre ce phénomène que j'essaye de décrire. J'aurais tendance ici à procéder à une comparaison avec la vie publique. De même que le sens de l'intérêt général s'est évanoui dans la vie de la cité, et bien de même le sens de l'intérêt supérieur de la recherche s'est brouillé dans la vie de l'esprit. Dernier phénomène qui me semble important, la fragmentation de l'espace public de la connaissance affecte le sens même de la publication. avant, on publiait en vue d'être discuté, en vue de s'exposer au jugement d'autrui, en vue de s'exposer à la contradiction. Eh bien, ce n'est plus vraiment le cas pour des raisons que j'ai déjà évoquées. L'espace public fonctionne aujourd'hui comme un dispensateur de reconnaissance. Ce qui compte désormais dans la vie d'un universitaire, c'est, je l'ai indiqué, c'est le nombre de publications qui tiennent lieu de CV. Et le phénomène qui s'est enclenché depuis peu, c'est celui d'une implacable course à la publication, qui fait que pour accéder à un poste de maître de conférence ou de chargé de recherche, eh bien, on vous demande de publier de plus en plus, bien plus que n'ont publié durant toute leur carrière ceux qui sont chargés de vous recruter. La richesse des CV, richesse quantitative s'entend, la richesse des CV des jeunes générations n'est absolument pas comparable avec les maigres publications de la plupart des gens qui recrutent. Voilà. Asymétrie tout à fait troublante. Et ceci induit une série de biais assez prévisibles, à commencer par cette tendance très fréquente qui consiste à publier tout le temps la même chose, moyennant de menus arrangements. Je remanie l'introduction, je remanie la conclusion, mais je peux passer une vie entière à publier la même chose. Et ça, cela va fortement stimuler mon coefficient H. La vraie difficulté dans cette situation, c'est que plus personne, au fond, ne se soucie de la qualité intrinsèque des travaux publiés. Tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être accepté dans une revue à comité de lecture, ou, si vous le préférez, une association de mandarins. Et une fois que vous êtes accepté dans cette communauté, eh bien, peu importe que cette revue n'ait pas de lecteur. Marcel Gaucher notait avec humour qu'il y avait deux types de revues, les revues à comité de lecture et des revues avec des lecteurs. Donc l'important ici est de publier, non pas pour être critiqué, mais afin d'être reconnu. C'est le dur désir de reconnaissance qui est à l'œuvre. Dissipons cependant tout malentendu, ces travers, ces mots, ces dysfonctionnements que je viens de décrire. L'espace public de la connaissance n'en est pas directement la cause. Pour bien situer l'enchaînement des causes et des effets, il me semble que l'on pourrait présenter les choses de cette manière. La transformation du savoir, qui est le phénomène matriciel à mes yeux, provoque en retour une fragmentation de l'espace public de la connaissance qui, à son tour, a des répercussions sur la production intellectuelle des jeunes générations. Mais le phénomène qui conditionne tous les autres, c'est celui de la métamorphose du savoir. C'est le fait que le savoir perd son statut de bien public, son statut d'œuvre collective, impersonnelle et intemporelle. Et l'on pourrait, de ce point de vue, procéder à une comparaison avec le politique, tant il est vrai qu'un même phénomène de désymbolisation est à l'œuvre des deux côtés. Pour le dire très simplement, l'individualisme que l'on observe dans la vie sociale a pour pendant l'individualisme dans le monde du savoir. Et cet individualisme fait signe simultanément vers un effacement du savoir et de la société.
Merci.